C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Lundi 8 mai, bonne journée, bienvenue au 98.5. Côté météo, ben c'est la continuité, c'est-à-dire du soleil pour toute la semaine, mis à part un épisode de pluie, probablement vendredi soir ou très tard. Donc essentiellement ensoleillé, 18 aujourd'hui, demain 17, mercredi 22, jeudi 25 et vendredi 24. Il y a eu quand même un avertissement de gel au sol pour Eastman. Pour la nuit prochaine. Donc, ça va frôler le zéro, mais ailleurs, là, on est dans le 5, 7, 10 degrés. Alors, température remarquable. On peut dire que le Journal de Montréal a comme un peu relancé tout le débat sur l'immigration en fin de semaine, avec à la une l'espèce de scénario sur 75 ans de ce que projette le gouvernement fédéral. Alors, si vous l'avez pas vu, je vous résume, le Québec va se retrouver avec une population de 100 millions de personnes. En fait, 100 millions au Canada, puis le Québec va être noyé dans ce scénario. Montréal va être une ville de 12 millions d'habitants, Québec 5 millions. Et grosso modo, le poids du Québec va fondre au fil des ans. Et quand on dit le poids, c'est le poids démographique et le poids politique. Et que tout ça est une stratégie de Justin Trudeau de faire entrer 500 000 personnes par année au Canada, immigration, réfugiés, pour, dit-il, faire grossir la population et, ce qu'on entend tout le temps, pour répondre aux besoins de la main-d'œuvre. Disons tout de suite que ça, c'est un mensonge. Oui, il y a des immigrants qui viennent combler des besoins de main-d'œuvre à très court terme, mais tous à peu près s'entendent pour dire maintenant que ça ne peut pas être un objectif en soi. Les Québécois font moins d'enfants et les Québécois de souche en termes de poids, ça aussi, ben ça s'effiloche au fil des ans. Donc, le journal nous dit, en gros, avec une immigration aussi forte, regardons quels sont les scénarios, les conséquences. Ça peut amener, évidemment, à l'effritement du français. Ça peut provoquer des tensions sociales. Rappelons-nous tous les débats sur les questions religieuses, sur les questions culturelles. Alors ça, c'était le premier volet. Au même moment, et ce qui est intéressant, c'est que la ministre de l'Immigration, qui sera avec nous tantôt, Christine Fréchette, dit ce matin dans le Journal de Montréal que Québec va pas s'en laisser imposer, puis Québec va défendre son point de vue, puis on a nos quotas. Puis c'est pas que les immigrants qu'il faut considérer, ce sont les étudiants étrangers, les résidents permanents, les réfugiés. C'est un ensemble de gens qui ont des statuts différents. Alors, elle dit ça d'un côté, pendant que la presse, samedi, nous apprenait que c'est plus facile pour un immigrant francophone d'aller ailleurs au Canada qu'au Québec. Nous, on se gargarise en disant, on veut des immigrants qui parlent français, ils vont s'intégrer plus vite, puis c'est ce que la société souhaite. Et on donne des exemples, selon les chiffres d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, c'est très, très clair qu'en Ontario, par exemple, on est passé de 2021 là, à 4000 cas de francophones qui sont allés s'établir là-bas à 20 000. La hausse est encore plus marquée au Nouveau-Brunswick, 790 à 2315. Pourquoi les francos vont ailleurs qu'au Québec? Parce que le Québec, semble-t-il, c'est plus compliqué puis ça coûte plus cher. Et que dans les autres provinces, les procédures d'accueil, de reconnaissance, par exemple, pour ce qui est du milieu de travail, se font beaucoup plus rapidement. Donc, ces immigrants francophones, puis là, les cas qu'on avait dans la presse, ce sont des gens qui arrivent d'un peu partout, des gens qui arrivent d'Afrique, qui arrivent du Moyen-Orient, des gens qui viennent donc de partout dans le monde et qui ont l'avantage, en partant, de maîtriser le français. Puis on donne l'exemple de quelqu'un qui part du Togo puis qui se ramasse dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, est-ce qu'on fait vraiment notre part au Québec pour accueillir les immigrants ou si c'est vrai qu'on leur complique la vie? Point d'interrogation. Et puis ce matin, on a également le 90e congrès de l'ACFAS, donc sur les sciences. Et il y a une espèce d'événement qui porte justement sur les immigrants qui menacent le français au Québec. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et celui qui organise l'événement, c'est un professeur au département de sociologie de l'Université Laval, Jean-Pierre Corbeil, qui dit que parmi les mythes qui circulent, c'est que les immigrants connaissent pas le français, contribuent au recul du français au travail, parlent pas le français, même s'ils ont une certaine connaissance de la langue, et que il faut leur imposer un délai très court pour apprendre le français. Sinon, le déclin va s'engager et ça va aller très vite. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de fausseté là-dedans. Premièrement, la proportion d'immigrants parlant le plus souvent français à la maison est passée de 38 à 42 %. Mais il dit, c'est pas important de savoir quelle langue ils parlent à la maison. C'est un vieux concept. Ce qui est important, est-ce qu'ils parlent le français? Est-ce qu'ils sont capables de soutenir une conversation en français? Et c'est un peu aussi l'effet qu'on a vu de ce qu'on a appelé les enfants de la loi 101. Le cas classique, c'est l'immigrant qui arrive ici, qui ne parle pas français, qui va l'apprendre, mais difficilement, pour toutes sortes de raisons, mais dont les enfants, donc la génération qui suit, va aller à l'école française et va apprendre et peut parler français. Ça ne veut pas dire que ça leur tente de parler français. Ça ne veut pas dire qu'à la maison, ils vont pas garder la langue d'origine. Ça veut surtout pas dire que l'anglais est tassé. Bien au contraire, parce que l'anglais est une langue, évidemment, dominante. Et même si vous avez des immigrants qui parlent français, qui parlent leur langue maternelle, l'italien, ben ils vont aussi parler l'anglais, puis ça se peut que l'anglais, finalement, l'emporte. Alors, il y a évidemment beaucoup d'enjeux, et c'est important de faire ce débat, alors que je vous signale qu'aux États-Unis, cette semaine, on ouvre les frontières. Et c'est pas banal, là, c'était ce qu'on a appelé la fameuse clause, c'est un article dans la Constitution, la clause 42. La clause 42, ça dit qu'en cas de maladie, alors là, on repense à la COVID, on pouvait repousser les gens pour éviter qu'ils se retrouvent dans des camps et donc qu'il y ait risque de propagation de la maladie. Alors, à partir de cette semaine, donc, on va lever cette interdiction, puis là, on pense qu'il y a des gens qui vont se lancer vers la frontière. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que ces mouvements de population du sud vers le nord, puis on le voit avec ce qui se passe au chemin Roxham, ce qui s'est passé, et ces transits entre la frontière des deux pays, l'immigration économique, climatique, sociale, va être un enjeu majeur pour les prochaines années. Et entre propager des données qui sont fausses ou des interprétations un peu clichés, ça demeure une question de débat. Et M. Trudeau n'a pas le droit de lancer ça. On comprend que dans le cas du multiculturalisme canadien, c'est un atout, un avantage, mais il me semble que une société a le droit de discuter sereinement de ce genre d'enjeu. Je vous parlais d'immigration, vous avez vu le Texas en fin de semaine. On sait que c'est un État, d'abord, il y a beaucoup d'armes et également beaucoup d'événements violents. Pensons à cette école où 19 enfants ont été assassinés. Puis il y a eu une autre tuerie de masse, j'y reviendrai. Mais là, c'est l'histoire hier d'un individu fou au volant. Est-ce qu'il est en état d'ébriété? Est-ce que c'est un acte volontaire? On dit que c'est un homme entre 30 et 40 ans. Il a été arrêté par les policiers. Il conduisait un Range Rover et il a foncé vers des gens, des piétons, qui étaient à l'extérieur d'un centre qui accueille justement des migrants et des itinérants. Alors, les gens étaient là. C'est tout près, d'ailleurs, de la frontière. Là, c'est à Brownsville. C'est pas très loin de la frontière avec le Mexique. Donc, puis il a fait quelques manœuvres, il a foncé, il est revenu. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé à Amqui, là. C'est d'aller chercher les gens alors qu'ils sont à un abribus ou encore sur un trottoir. Et il y a eu donc cette tuerie de masse en fin de semaine, une histoire complètement folle. Ça se passe à 3h30 l'après-midi. C'est une petite ville de banlieue de Dallas. Et c'est une espèce d'endroit, là, c'est un centre commercial extérieur, des athlètes, si vous voulez. Et il y a 120 magasins. Puis les gens sont là, puis se promènent, puis ils profitent de la journée pour faire leurs achats. Puis un gars qui arrive, qui est vêtu tout en noir et qui est armé de ce qui semble être une arme de type AR-15, donc une arme d'assaut, et qui ouvre le feu. Il tue 8 personnes, dont un enfant de 9 ans. Le gars a été abattu par un policier qui était pas loin, puis on a découvert que c'était un suprémaciste blanc, qu'il avait, semble-t-il, plusieurs connexions avec des groupes d'extrême droite, puis quand ils ont vu un peu ce qu'il fréquentait sur Internet, c'était assez clair que son idéologie était teintée de racisme. Alors, un autre cas, puis à chaque fois, c'est la même affaire, le président Biden qui dit ben c'est épouvantable, puis il faut qu'on resserre le contrôle des armes à feu. Puis entre-temps, il y a des images dégueulasses qui ont circulé sur Twitter hier, partagées par plusieurs, de ce qu'on appelle des images choc de cette fusillade. Ça veut dire des corps ensanglantés qui étaient comme ça sur la rue, donc des victimes innocentes. Maintenant, dans la presse ce matin, il y a un dossier super intéressant sur les fraudes financières. Et là, on a tous été sollicités par des gens qui nous demandent notre NIP. La semaine dernière, je vous racontais l'histoire où la représentante de la banque était en ligne avec la fraudeuse et que, convaincue que c'était une collègue de travail, lui a dit « complète le dossier, c'est une fraude d'à peu près 17 000 ». Donc, Marie-Ève Fournier, à qui on va parler tantôt, nous donne des exemples de gens qui réussissent à frauder. Il y a toutes sortes de stratagèmes. Ils ont réussi, par exemple, à entrer dans des comptes d'épargne-études, à vider des comptes, à se commander des bouteilles de Romané Conti puis faire payer ça par quelqu'un d'autre. Puis c'est plusieurs milliers de dollars. Puis les stratagèmes sont nombreux. Ça se renouvelle un peu. Il y en a qui disparaissent, qui reviennent. Mais ce qui est important de voir, c'est que la police n'enquête à peu près pas. Puis l'exemple qui est donné dans l'article est intéressant. C'est quelqu'un qui est allé chercher, enfin s'est commandé des bouteilles de Romané Conti. Le gars qui avait sa carte de crédit qui a été piratée, finit par l'application Alfred, là, qui gère des commandes et tout ça, par localiser le voleur. Il est où le fraudeur? Il est dans un immeuble du centre-ville. Il va voir la police du autre, on s'occupe pas de ça. Trop compliqué, ben des dossiers. Puis de toute façon, les fraudes, là, la banque va vous compenser, puis... C'est quand même particulier. Ce que ça veut dire, là, c'est qu'à moins d'un cas bien spécial, c'est pas prioritaire. La police a d'autres chats à fouetter. Ça, on le savait. Ce qui amène des entreprises à se tourner vers le privé, souvent, pour enquêter des cas de fraude. Qu'est-ce qui se passe dans la compagnie? Puis, de temps en temps, il y a quelques fraudeurs qui se font arrêter, mais vous allez voir que le nombre de cas traités par la direction des poursuites criminelles et pénales est assez limité. Puis même quand on pose la question, ils n'ont pas l'air à trop savoir exactement combien de dossiers ont été vus. Journal de Montréal ce matin, à la fin du secondaire, 48% des élèves ont réussi l'examen d'orthographe. Il y a différents types, mais le taux de réussite global se situe à 70%. Mais pour ce qui est de l'orthographe pure, là, c'est strictement 48%. Du côté de l'environnement, il y a des feux de forêt qui font rage en Alberta. La première ministre Danielle Smith qui va demander l'aide du gouvernement fédéral. Il y a quoi? 29 000 personnes qui ont été évacuées de leur maison. Et en raison des vents, on a l'impression que ça pourrait se propager et toucher même des zones forestières le long de la frontière avec la Colombie-Britannique. Parce que là aussi, en raison des vents, il y a des feux importants qui sont envisagés. Maintenant, dans les autres nouvelles, Le Devoir ce matin, on sait que les redevances sur l'eau vont augmenter au Québec. Et donc, ces nouvelles redevances qui touchent beaucoup l'industrie de l'embouteillage, ben là, ils sont en mouvement pour dire que finalement, ce n'est pas la bonne cible, c'est pas à eux de payer. C'est sûr c'est un lobby, là, je comprends tout ça, mais on a malheureusement gaspillé notre eau, donné notre eau, et il y a des gens qui se sont enrichis avec l'eau du Québec. Ça a pris du temps au gouvernement. Puis le Parti libéral a fait ça à petite dose, c'est le cas de le dire. Puis la CAQ, on était pas sûr. Puis là, finalement, ils ont compris qu'il y avait une limite à donner comme ça à des multinationales l'eau. Eh bien là, c'est sûr qu'il va y avoir un débat, puis que le lobby va s'organiser pour se faire entendre. Côté santé, il y a le ministre Christian Dubé qui dit que les élus municipaux, que les maires devraient avoir un mot à dire dans la gestion des services de santé offerts sur leur territoire. Ce sont des élus de proximité, ils connaissent leur monde, ils connaissent les enjeux. Et tout ça se passe évidemment alors qu'on a cette commission à Québec qui enquête, en fait, qui pose des questions sur le projet de loi qui va créer l'Agence de santé Québec. Monsieur Dubé nous parle beaucoup du Danemark. Un des enjeux, c'est la présence de la bureaucratie. Pourquoi? Parce que le Québec... On est champion en éducation et en santé là, pour avoir beaucoup de couches administratives. Et les pays qu'on nous cite en exemple sont des pays fonctionnels où on s'en remet aux gens terrain et moins à des apparatchiks qui sont dans une grosse, grosse machine. Puis moi, les échos que j'entends, là, c'est est-ce qu'on change les fonds-fonds pour d'autres fonds-fonds là, avec l'Agence de santé Québec? Maudite bonne question. Donc, on verra comment le débat va se poursuivre. Et aussi, ce matin, peut-être un mot sur vos vacances d'été. Je vais finir avec ça. On parlera de la guerre en Ukraine un peu plus tard. Il y a des bombardements qui ont touché la capitale et la ville d'Odessa. Puis Jean-François sera avec nous. Mais si vous avez à voyager cet été, rappelez-vous le bordel l'été dernier, là. Les bagages perdus, les retards, les vols annulés. Le temps des fêtes a été chaotique. Puis il y avait eu aussi toute la gestion des passeports. Je disais ce matin dans le Globe and Mail que les compagnies aériennes se préparent avec d'abord plus de vols que l'été dernier, donc un achalandage plus élevé. Dans certains cas, on a trouvé du personnel, mais du personnel pas trop expérimenté. Et ça dépend à qui vous parlez, là, ils ont fait le tour. Les transporteurs, par exemple, comme Air Canada, c'est quelques, je pense que c'est 4 ou 6 % de plus de vols. En un mot, là, on sait pas trop ce qui va arriver. Et le bon vieux conseil, si vous êtes capable, voyagez léger. C'est pas le temps d'enregistrer ses bagages, parce qu'on l'a vu encore pas plus tard qu'en décembre dernier, des erreurs, des bagages perdus, puis c'est ben du trouble pour rien. Alors, puis là, il y a des vols qui sont annulés, repoussés, sans compter que les prix ont littéralement explosé.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
La semaine dernière, j'ai abordé avec vous plusieurs dossiers qui sont reliés à des jeunes adultes qui éprouvent des problèmes de santé mentale et à leurs parents qui sont confrontés à des enfants qui grandissent et qui deviennent, dans certains cas, même dangereux pour eux. Vous avez été très, très nombreux à m'écrire et on comprend la problématique que vivent ces parents. D'abord, la peur de ce jeune adulte et aussi la difficulté à trouver de l'aide, à s'assurer que l'enfant est pris en charge, puis à le sortir finalement de cet univers qui le mène malheureusement souvent à la rue. Hélène m'a écrit, elle veut me parler, puis vous parler de l'histoire de son fils qui a eu des enjeux importants. Je vous le dis tout de suite, la fin est quand même encourageante parce qu'il a trouvé de l'aide puis il est en train pas mal de s'en sortir. Bonjour Hélène.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Hélène, d'abord, on va situer un peu votre fils. C'est le fils de Pierre Rondeau, cet agent, ce gardien de prison qui avait été abattu. On se souvient à la fin des années 90-97, c'était une commande des motards de Môme Boucher. Et c'est à peu près à ce moment-là que les problèmes de votre fils ont commencé.
Oui, exactement. Je pense bien que ça devait être l'élément déclencheur pour commencer ces problèmes, justement, oui. Ce qui est arrivé, bon, c'est ça, c'est qu'après les funérailles, il a comme revu des anciennes connaissances, et puis ça a pas aidé parce qu'il s'est mis à boire, à fumer du pot, et puis étant donné aussi qu'il avait eu de l'argent, de l'héritage de son père, là, vu qu'il était décédé, ça l'a pas aidé parce que il a dépensé, il s'est acheté une voiture neuve, il s'est fait une copine, il l'a gâté. En tout cas, il a dépensé. Moi, j'avais pas du tout de pouvoir là-dessus, mais il a dépensé jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent. Il a perdu l'auto. Dans le fond, il se retrouvait pratiquement à la rue. Là.
À quel moment, parce que bon, un jeune qui ramasse comme ça des centaines de milliers de dollars puis qui dépense, c'est une chose. Mais à quel moment vous avez senti qu'il y avait des épisodes de psychotiques ou en tout cas qu'il allait pas bien?
Oui, c'était bon comme petit peu là. Mettons, il manquait des rendez-vous. Mettons, avant, il m'aurait dit, je vais nettoyer le driveway. Ben là, il faisait plus. Tu sais, c'est toutes des petites choses. Il maigrissait. Il était souvent comme dans la lune. C'est son, je voyais qu'il filait pas. Il y avait des drôles de démarches. Toute son attitude, son comportement, là, ça l'avait changé. Ça avait changé beaucoup.
vous étiez séparé de M. Rondeau, donc divorcé et tout ça.
Oui.
Il y a eu des comportements là inquiétants là, puis d'imaginer des choses comme quoi qu'il y avait, qu'il lui-même était probablement sur la liste de gens qui se feraient assassiner.
Oui, exactement. Ce qui a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de méfiance. Voyez-vous, mettons, je peux vous donner des exemples. Il fermait tous les stores chez nous. Quand la télévision fonctionnait, ben ça parlait de lui. Dans sa chambre, à un moment donné, j'ai vu qu'il a barricadé sa fenêtre avec des planches de bois. Il a défait sa lumière au plafond pour aller, je sais pas vérifier quoi, mais c'est sûr que lui, il se sentait vraiment suivi, examiné. Il est même monté à un moment donné dans le grenier pour aller défaire une petite plaque, là, je sais pas à quoi ça servait. On voit tout ça par après. Souvent, mettons, il pouvait regarder dehors juste comme ça, puis bon, il y avait une auto devant la porte, mais c'était pour lui, là, il fallait qu'il se cache. Ben c'était rendu que on n'avait plus de vie, là. Tu sais, dans le fond, j'étais à la maison, j'étais aussi enfermée que lui, là.
Et vous avez même trouvé un couteau et une corde dans son placard?
Ah oui, oui, ça c'est rendu après plusieurs épisodes psychotiques, là, où j'ai dû aussi souvent faire venir la police. Ouais, ça a été quasiment la fin, là, c'est qu'on a trouvé justement une grosse corde, un couteau, et puis il était tellement bizarre, là. Mettons, s'il se coupait les cheveux, il gardait ses cheveux dans une serviette. Ça avait plus de bon sens, son attitude. Alors là, il marchait chez nous, il longeait les murs pour pas me croiser. Je voyais qu'il me regardait, là, puis c'était plus moi, là. C'était-tu après moi? C'était-tu après quelqu'un d'autre là qui aurait voulu? Est-ce qu'il y avait des commandes dans sa tête? Je ne sais pas, mais c'était devenu dangereux.
Il a quel âge à ce moment-là?
Il était dans la vingtaine.
OK.
Oui.
Et même, il pouvait vous suivre à votre travail puis rester dans l'auto toute la journée.
Oui, tellement il avait peur à un moment donné. C'est ça. Moi, je travaillais. Je partais le matin, puis là, ben il disait, man, je vais y aller avec toi, là, tu sais, inquiète-toi pas, là, je vais juste être tranquille. Bon, OK, je voyais bien qu'il avait peur. T'sais, à un moment donné, on peut pas non plus le laisser à lui-même, quand on voit qu'il fait tellement de choses bizarres comme ça. Fait que je l'emmenais, puis pendant ma pause, mon dîner, ben j'allais le voir pour voir si tout allait bien. C'était pas facile, là, à travailler à travers de ça, là.
Mais on sent que c'est une descente, là, puis que ça va le mener même jusque dans la rue, puis dans des refuges pour itinérants.
Oui, oui, exactement. Il a été souvent dans des refuges. Ben ça se trouve à être à Laval, mettons, lui était là. C'était des centres de crise, des maisons comme ça, mais jamais il gardait parce qu'il trouvait trop comme un peu agressif, un peu violent. C'est sûr que François, à ce moment-là, il voulait vraiment pas se médicamenter, là, hein. Lui, il pensait que les médicaments, c'était pour qu'on puisse faire ce qu'on veut avec. Et puis, quand même qu'on essayait de lui donner, là, il faisait tout pour faire semblant, mais il les jetait, il les crachait, là.
Et à quel moment il a pu commencer vraiment à obtenir de l'aide? À quel moment vous avez senti, là, avec votre aide à vous, votre appui, que, on avait peut-être un peu d'espoir?
Oui, le meilleur moment, là, c'était qu'en 2008, on le rentrait à l'hôpital, là, justement à la découverte, là, de sa corde, et puis il avait aussi demandé, sans l'air, un arme à feu à quelqu'un, en tout cas. On le rentrait à l'hôpital, en ambulance, là, et puis là, j'ai eu des psychiatres qui ont été vraiment, vraiment bons, là. D'abord, celui qui le suivait en externe, je m'étais monté tout un dossier de ce qu'il pouvait faire, là, de vraiment anormal, dangereux, inquiétant. Et puis, il m'a bien aidé. Le psychiatre aussi de l'hôpital a vu, il a demandé d'avoir, c'était à la cour, ça, je pense, 7 jours de plus, parce que c'est sûr que mon fils voulait sortir, là. Mm-hmm. 7 jours de plus pour l'examiner. Ensuite, il a redemandé 30 jours de plus. Puis en dernier, il a dit non, on va aller à la cour, on va demander vraiment ordonnance de traitement et d'hébergement. Alors, je suis allée à la cour, et puis avec l'appui là de ce psychiatre-là, on a réussi, c'est une affaire qui est très rare, à avoir 3 ans, ordonnance 3 ans, de d'hébergement et aussi d'être médicamenté là, malgré sa volonté. Et je peux dire que c'est à partir de là, tranquillement, il y avait des injections aussi, donc les injections, on peut pas oublier là, la médication quand il est injecté. Et puis, il a été placé aussi dans un endroit, c'est un petit appartement, on dit supervisé, mais ça a duré, on dirait que dans le fond, ces gens-là, ils ont besoin d'être assez longtemps soignés pour réaliser comment ce qu'ils étaient avant. Aujourd'hui, il veut plus retourner là, plus jamais. Il fait tout ce qu'il faut pour, il suit son psychiatre, il prend la médication, il manque pas de rendez-vous. Puis quand il file pas, il se présente lui-même à l'hôpital.
C'est intéressant ce que vous dites. D'abord, le suivi, pas juste médical, mais social. Oui. Et là, aujourd'hui, il est quoi, dans la quarantaine à peu près?
Oui, c'est
bon.
Ça.
Est-ce qu'il réalise un peu jusqu'où il s'était enfoncé il y a 20 ans, puis jusqu'à quel point il aurait pu perdre la vie, tuer des gens, bref, qui était vraiment là dans un état dangereux?
Oui, il le réalise, mais quand j'en parle avec lui un peu, il aime pas ça. Il veut pas se remettre ça en mémoire. D'ailleurs, il est vraiment antisociable. Hein, tu sais, ce qu'il a à raconter, ce qu'il vit, il y a rien de valorisant là, fait que c'est sûr que lui il veut pas rencontrer personne. Tu sais, quand on rencontre les gens, on lui demande ben qu'est-ce que tu fais de bon, où c'est que tu travailles, bon, il y a rien lui à dire, il y a rien, il est sur l'aide sociale, il est inapte au travail. Mais par contre, ce qui est positif pour lui, la seule thérapie qui est bonne, c'est qu'à toutes les fins de semaine, il vient chez nous. Je vais le chercher, il vient chez nous. Puis là, je le fais travailler, je le fais occuper de mon chien, je fais faire des petits travaux pour lui remonter son estime de lui-même. Puis c'est ça, dans le fond, il est plus souriant, il a accepté sa situation. Puis la vie continue. C'est sûr qu'il n'y aura pas jamais de mieux là, que ça. Mm-hmm. Et puis il reste encore avec des symptômes là, qui sont évidents. Mais quand on a connu ce que c'était, aujourd'hui, on trouve que c'est beaucoup mieux. Puis moi, je trouve ça moins inquiétant de le voir à toutes les semaines que de pas savoir où ce qu'il est puis comment qu'il va. Fait que c'est sûr, c'est un sacrifice là, mais ça me fait plaisir. Je suis récompensée par le fait qu'il s'améliore.
J'espère que vous savez que vous faites du bien à beaucoup de gens qui écoutent ce matin, à beaucoup de parents qui vivent des situations similaires depuis même, dans certains cas, plusieurs années. Là.
Oui, c'est pour ça que j'ai tenu à vous écrire. Je sais que c'est tannant un peu pour les gens qui ont pas ce problème-là dans leur famille, mais ceux qui le vivent, ceux qui sont dedans, c'est tellement rassurant puis réconfortant d'entendre ça. Puis aussi, je voulais aussi mentionner qu'il y a des organismes dont lesquels je suis allée, moi aussi, puis je me suis impliquée, mais il y a la Lueur du Fort de Lanaudière. Ça, c'est Joliette, Repentigny. Il y a l'Alpabem à Laval. Il y a beaucoup d'intervenants. Quand on a besoin de parler, parce que la famille, on essaye de les éviter parce qu'on est gêné, mal à l'aise. Puis la personne malade, elle veut pas que le monde le sache là dans la famille. Fait que ces gens-là sont là, ils nous aident. Il y a des conférences, il y a beaucoup d'informations au sujet de la maladie. Puis on rencontre beaucoup de gens qui vivent aussi la même chose que nous autres. C'est ce qui est le plus important, là.
Hélène, merci beaucoup. Bravo pour tous ces efforts, pour votre courage. Il y a dû y avoir des moments plus difficiles que d'autres, des moments un peu de résignation. Puis en même temps, vous avez trouvé l'énergie pour soutenir votre fils. C'est remarquable. Bravo à vous.
Oui, ben merci beaucoup. Merci, M. Arcand.
Bonne journée. Hélène.
Bonjour, oui.
Qui est la mère d'un homme qui a commencé dans la vingtaine, problème de psychose, consommation, on connaît la combinaison. Et c'était un contexte où le père de ce jeune homme, Pierre Rondeau, avait été abattu avec un autre gardien de prison. C'était toute l'époque où les Hells Angels, disons, en est large avec Mom Boucher, qui avait ciblé le système, alors des gardiens de prison. Et on s'imagine l'impact de la mort pour un fils, son père assassiné. Puis là, ça bascule, puis il voit des scénarios, puis il pense qu'il est la prochaine victime potentielle. Mais au moins, encadré, aidé, bien suivi, ça a permis de le sortir des bas-fonds puis de lui offrir une vie la plus normale possible, si on veut, dans les circonstances. Ben, on peut dire que le débat sur l'immigration a été relancé en fin de semaine. Vous avez sans doute vu la une du Journal de Montréal qui met en lumière le plan du gouvernement fédéral de grossir la population à 100 millions d'ici la fin du siècle. Évidemment, on tente de mesurer puis on lance des hypothèses sur l'impact sur le français. Est-ce que le Québec sera noyé? Est-ce que le poids démographique sera tel que non seulement le Québec comme province, mais aussi que les francophones, devant cette immigration massive, on va voir le français en décliner. Il y a différentes approches. Je regarde, là, si je résume ce qui est arrivé en fin de semaine. Bon, évidemment ça, la presse nous a dit, vous savez, il y a une réalité, c'est plus facile pour un francophone d'immigrer ailleurs au Canada que de le faire au Québec. Et il y a beaucoup de gens qui questionnent aussi la façon dont on calcule l'usage du français. Est-ce que ça se passe strictement quand on considère la langue parlée à la maison ou la capacité de parler de français? La ministre de l'Immigration sera avec nous tantôt, mais je voulais faire le point ce matin avec Gérard Bouchard, historien, sociologue, qui évidemment analyse depuis des années, on se souvient de la commission aussi, ces différents enjeux. Monsieur Bouchard, bonjour.
Bonjour, M. Arcand. Vous allez bien?
Très bien. Quand vous avez vu ça en fin de semaine, comment vous avez réagi, là, le plan d'une immigration massive et d'un impact potentiel sur la survie du français?
Bon, je peux vous dire que j'étais découragé, mais ce n'était pas nouveau. Ça fait un bout de temps que je suis découragé. C'est sûr que, d'abord, je ne sais pas de quelle ambition vient de prendre le Canada anglais d'atteindre le chiffre de 100 millions. C'est un appétit de pouvoir. C'est quoi? Quelle est la logique de ça exactement? Est-ce que c'est pour rendre heureux 100 millions de personnes? Ce serait dur à croire. Alors, évidemment, ça va avoir des retombées sur le Québec. Ces 100 millions de personnes, elles vont demeurer dans l'ensemble du Canada. Donc, le fédéral va établir des règles pour qu'il y ait des immigrants qui s'en viennent chez nous, mais selon les conditions et les politiques du gouvernement fédéral qui ne sont pas les nôtres. Alors, on a raison de s'inquiéter, là. Peu importe les détails dans lesquels on peut entrer avec les spécialistes sur la façon de mesurer la francisation ou pas, ou l'intégration ou non, restons dans les grandes lignes, on a raison de s'inquiéter. Et ça veut dire que ça a toujours été très important ici de s'occuper de l'intégration des immigrants. Maintenant, ça devient une urgence. Et ce que je veux dire, moi, M. Arcand, c'est que le Québec se traîne les pieds dans ce dossier-là depuis plusieurs années. Le Québec n'a toujours pas de modèle, de système ou d'approche pour établir ses politiques d'intégration, pour mettre de la cohésion dans ses interventions et pour désigner comment définir ses interventions. Alors que le Canada, depuis longtemps, depuis 50 ans, a son modèle du multiculturalisme qui l'oriente, qui définit ses politiques et qui met justement cette espèce de cohésion dans les modalités d'intégration des immigrants. Et apparemment, au Canada anglais, ça se passe quand même assez bien. Au Québec, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'on improvise depuis 15 ou 20 ans. On avait bien analysé ça à la commission, on avait fait des recommandations pour remédier à la situation, qui n'ont eu aucune suite. Alors moi, ce qui me gêne beaucoup et de plus en plus, c'est qu'au Canada anglais, ils se sont donné un modèle, le multiculturalisme. Au Québec, on s'en est donné un aussi, nous, les intellectuels, les spécialistes qui travaillent, qui réfléchissent sur ces choses-là, c'est l'interculturalisme. C'est un modèle qui a été conçu pour nous autres, ça, pour nos besoins, pour nos inquiétudes, bon. Et pourquoi est-ce que le gouvernement se penche pas même pour donner une chance à ce modèle-là, pour en faire l'essai, pour s'en inspirer? C'est un mystère pour moi, c'est un mystère.
Et si vous aviez à préciser ce modèle pour les gens là, qui sont pas familiers, comment vous le définiriez?
La principale différence avec le multiculturalisme, là, c'est que ici au Québec, la langue, c'est pas comme au Canada anglais. Au Canada anglais, il y a personne qui s'inquiète de l'avenir de la langue anglaise. Mais nous autres, c'est pas pareil. On est menacé. Notre langue est menacée et à long terme notre culture aussi. Alors l'interculturalisme accorde une importance considérable à ça. Deuxièmement, ici nous reconnaissons qu'il y a une majorité francophone et qu'il y a des minorités. Dans le multiculturalisme, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette idée. Non, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de minorité. Il y a un assemblage de groupes ethniques qui, ensemble, forment la nation. Bon, si ça marche chez eux, tant mieux. Mais est-ce que vous nous verriez appliquer ça ici? Avec toute une mosaïque qu'on mettrait sur le même pied que la majorité? Bien sûr que ça ne marcherait pas, parce que la majorité a un besoin que les autres n'ont pas, c'est sa langue, soigner sa langue. Et ça veut dire intégrer les immigrants, les franciser, leur donner le goût de s'intégrer aussi, de vivre au Québec, etc.
Mais monsieur
ça
ne
se fait pas tout seul.
Est-ce que vous sentez un changement de ton de la part du fédéral? C'est-à-dire que ce modèle-là a toujours été mis de l'avant, notamment par les libéraux, mais que maintenant, on le fait de façon un peu plus poussée, j'allais dire un peu plus radicale.
Ben, c'est un peu plus agressif, c'est bien sûr. Puis c'est sans aucune consultation avec le Québec, qui forcément devra recevoir sa part de ces 100 millions d'immigrants. Et aussi l'idée de ces 100 millions d'immigrants, c'est quelque chose de terriblement agressif. Quelles mouches les ont piquées tout à coup? Et puis c'est tout à fait irréaliste aussi. Comment on va faire au Canada anglais pour recruter 100 millions de personnes avec les critères de sélection qu'ils ont? Ils ne laissent pas entrer n'importe qui. C'est des gens scolarisés, etc. C'est aller chercher la crème, d'ailleurs, dans les pays en voie de développement pour les amener ici, ce qui, à l'échelle mondiale, est d'une immoralité considérable. Alors, d'une part, c'était réaliste. D'autre part, si ça marche, pour nous, ça va représenter un danger considérable. Et de toute façon, au Québec, on a un problème d'intégration des immigrants. Il faut nous donner une politique, une philosophie qui oriente nos démarches et qui correspond exactement à nos besoins. Ce qu'on n'a pas fait, il faudrait commencer par là.
Monsieur Bouchard, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Je vous en prie, monsieur.
Au revoir. Gérard Bouchard, historien, sociologue, qui a co-présidé la commission Bouchard-Taylor à l'époque. Et on le voit, les enjeux sont quand même importants. Il y a des professeurs qui disent, pour ce qui est de la survie du français, c'est clair que la langue soit toujours menacée. Il y a quand même des points positifs qui ressortent, dans la mesure où vous avez des immigrants de deuxième génération qui comprennent, qui parlent français, mais qui n'ont pas envie de l'utiliser. C'est l'anglais qui s'impose dans leur vie. Et on a beau dire, on a beau faire, c'est une réalité qu'on ne pourra pas vraiment changer. La ministre sera avec nous dans les prochaines minutes. Et qu'est-ce que peut faire le Québec? M. Bouchard vient de souligner l'absence de suite, de cohésion et d'intégration, disons, bien faite des différents gens qui débarquent ici au Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien, on reprend la discussion autour de l'immigration. Vous avez entendu Gérard Bouchard il y a quelques instants. Je rappelle donc d'abord ce qui s'est passé dans le Journal de Montréal en fin de semaine, en disant qu'il y avait une politique claire du fédéral de hausser les niveaux d'immigration pour atteindre une population de 100 millions à la fin du siècle, avec tous les enjeux que ça représente, par exemple, pour la survie du français, pour ne pas dire le déclin du français, le poids du Québec. La ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration est avec nous, Christine Fréchette. Madame Fréchette, bonjour.
Bonjour.
Je veux commencer par l'article de la presse ce matin, parce que on comprend là, l'approche fédérale. Mais quand on apprend que c'est plus facile pour des francophones d'aller au Canada anglais que de venir au Québec, là, on s'interroge. D'abord, est-ce que c'est vrai?
Ben, il peut y avoir des tractations, des démarches additionnelles quand il s'agit d'émigrer au français au Québec, parce que le gouvernement du Québec, en fait, a un rôle à jouer en matière d'immigration, ce qui n'est pas nécessairement le cas à l'extérieur du Québec.
Mais là, je suis pas sûr de comprendre. Si j'arrive d'un pays, le Congo, par exemple, ou le Togo, comme l'exemple qui est donné dans la presse, là, est-ce que c'est plus facile pour un immigrant venant d'un pays francophone d'aller ailleurs au Canada que de venir au Québec? Est-ce qu'ici, c'est plus long et plus cher?
Ça peut être plus long au Québec parce qu'il y a des mesures qui sont assumées par le gouvernement du Québec pour faire en sorte que ça réponde à nos critères, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres provinces du Canada. Il y en a certaines qui ont un rôle de sélection à jouer. Je pense notamment à la Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick. Mais le Québec a un rôle prépondérant au sein du Canada
en matière de gestion. Est-ce que c'est vrai que ça coûte 1 000 $ de plus en frais?
Les coûts sont plus élevés. Puis en ce sens-là, nous, on a comme priorité de réduire nos coûts, de réduire les démarches, de réduire les délais. C'est une de mes trois priorités et on veut s'assurer aussi que le fédéral soit dans cette mouvance-là également, qui cherche à réduire les délais, qui cherche à réduire les coûts, tout comme nous, on s'engage le faire.
Je comprends, mais Mme Fréchette, ouais. Sérieusement, là, le Québec répète et répète, on veut des immigrants qui parlent français, c'est un avantage. Ce que vous me dites ce matin, là, c'est qu'entre le discours et la bureaucratie, nous avons une procédure et des coûts qui pousse des francophones à aller ailleurs.
Moi, je vous dirais, on a le devoir d'une amélioration de performance.
Oui, mais ça, c'est clair. Avant de s'améliorer, là, on va constater les faits. Ça veut dire qu'actuellement, on pousse des francophones vers les autres provinces canadiennes.
On réussit à en attirer aussi, là, il faut voir. Il y en a qui choisissent d'aller dans d'autres provinces parce que peut-être que les coûts peuvent induire cette décision-là. Peut-être que les délais raccourcis peuvent les amener à choisir une autre province. Mais nous, on travaille fort pour que leur choix, ce soit le Québec. Et on a le devoir d'améliorer notre performance et on travaille là-dessus.
Mais là, c'est le phénomène inverse, là. Actuellement, ce qu'on assiste, c'est une augmentation du nombre d'immigrants francophones qui vont vers les autres provinces.
Et on travaille d'ailleurs à une grande réforme de nos programmes d'immigration pour faire en sorte d'augmenter d'une part la connaissance du français dans notre bassin d'immigrants, mais également d'améliorer notre performance au niveau des processus. On va vous présenter ça dans quelques semaines. Donc, vous allez voir qu'on va se mettre à niveau. On va répondre également aux inquiétudes en lien avec la langue française parce que la langue française a besoin de nous. Et on sera au rendez-vous. On va faire en sorte que...
Oui, mais ça, c'est un discours, là. Je vais faire
mais ça va être traduit dans les règles.
C'est une cassette, là.
Vous allez voir dans quelques semaines.
Monsieur Bouchard, là, Gérard Bouchard, ouais. Je dis tantôt, là, il n'y a pas eu de suite sur beaucoup de recommandations du rapport. C'est un manque de cohésion, que c'est un échec, l'intégration francophone au Québec.
On s'y est attelé, là, comme pas un gouvernement auparavant, ne serait-ce que l'augmentation du budget du ministère de l'Immigration. Ça a augmenté de 51
Oui, mais c'est pas l'augmentation du budget, là, mais la réalité, là, M. Bouchard, là,
vous me dites,
dans le fond, si je résume là, ce matin la discussion, on pousse les francophones qui veulent venir au Canada vers les autres provinces, puis ceux qui parlent anglais, on n'est pas capable de les accueillir puis de les franciser.
On va changer les règles du jeu
donc,
dans quelques semaines.
Le constat est bon, mais vous allez changer les règles.
On change les règles du jeu dans quelques semaines. On a mis énormément d'efforts pour améliorer nos réalisations. On a augmenté de 51 le budget du ministère. On a doublé le budget en francisation. On a réouvert tous les bureaux du ministère de l'Immigration en région qui avaient été fermés par les libéraux. On a réinstallé toutes nos équipes à l'international qui avaient été abolies par les libéraux. Ça a été un gros travail de fond. Donc, quand on dit, puis je suis d'accord avec Monsieur Bouchard, qu'il faut mieux l'accompagner.
Ça fait quand même 5 ans que la CAQ est au pouvoir.
Ben, on a fait ça déjà. Et là, on s'en vient avec une série de réformes de nos programmes pour faire en sorte de soutenir également la langue française à travers nos mesures d'immigration. Ça, c'est important de le faire.
Je suis convaincu que la plupart des gens qui nous écoutent ce matin ne savaient pas que c'était plus facile d'aller vers les autres provinces canadiennes. On savait déjà que c'était assez, disons, parsemé de ratés, là, la francisation. Mais quand j'ai lu ça en fin de semaine, tombe en bas de ma chaise.
Ben, c'est que c'est un pouvoir partagé, c'est une compétence partagée. On a un accord avec le fédéral.
Mais nous autres, la machine retarde, coûte plus cher.
Le fédéral a des délais importants.
Absolument.
Là, vraiment, là, il faut savoir qu'il y a pas que le Québec qui a des délais. Nous, on améliore notre performance. Franchement, si vous regardez là, le programme régulier de travailleurs qualifiés, on a un délai de traitement de 65 jours. Et pour le PEC, on a un délai de traitement de 47 jours. Du côté fédéral, on parle de délai de 31 mois en 2022, qui est réduit maintenant à 20 mois. Donc, il y a une amélioration du côté fédéral, mais reste que les délais sont en commune mesure avec les nôtres.
On joue sur les statuts. Ça dépend quel statut on demande.
Exact. Mais là, je vous en donne deux importants.
Ben,
c'est les deux où il y a eu des améliorations.
Okay. Sur le fond, ouais. Ce programme, d'abord, et j'imagine que vous le saviez qu'il y avait cette approche fédérale d'augmenter considérablement le nombre d'immigrants au Canada, là, peu importe le statut, là, mais et ça pour les prochaines années, ça vous le saviez?
Ben, on l'a appris, cet automne, là, quand ça a été divulgué.
Avez-vous eu des discussions avec votre vis-à-vis fédéral là-dessus?
Absolument aucune discussion de ce côté-là, puis j'ai demandé aussi à mes prédécesseurs si ça avait été le cas, et ça n'a pas été le cas. Donc, le Québec n'a pas été consulté sur cette orientation politique majeure, là. Ça va changer le visage du Canada, là. Cette orientation-là, ça n'a pas été discuté. Alors nous, on veut être consulté, on veut que ce soit discuté. N'en demeure pas moins que nous, on va rester maître du nombre de personnes qui seront sélectionnées par le Québec, même si le gouvernement canadien décide d'aller vers cette orientation-là. Puis je dois dire que j'ai des doutes dans le sens que ça soulève des questionnements dans le reste du Canada, ne serait-ce que sur le plan du marché immobilier. Ça crée une pression vraiment importante, là. Puis déjà, la pression existe. Alors, imaginez s'ils veulent tripler la population canadienne d'ici 2100. Donc, nous, on demande à être consultés en bonne et due forme, de manière politique, et qu'il y ait des discussions en ce sens-là, puis qu'on évalue le réalisme de la chose. Je suis d'accord avec M. Bouchard quand il dit que c'est pas vraiment réaliste. Effectivement, nous, notre capacité d'accueil, elle est pas à cette hauteur-là.
Mais est-ce qu'on pourrait mettre clairement sur la table, là, parce qu'il y a différents statuts, là, il y a des étudiants étrangers, il y a des réfugiés, il y a des... Bon, le Québec veut accueillir, exemple, en 2023, combien d'immigrants? Je parle pas des autres, là, des réfugiés, tout ça. Là,
on parle de 50 000 immigrants permanents. Donc ça, c'est notre plan qui a été déposé en décembre dernier. Et là, en deuxième moitié de 2023, on va tenir une consultation parlementaire pour définir les seuils pour l'année 2024 à 2027.
Et sur les 50 000 de 2023, on est rendu au mois de mai, là. On est rendu à combien, le savez-vous?
J'ai pas le chiffre exact en tête.
Mais est-ce qu'on s'en va vers ça?
On s'en va vers ça. Oui, effectivement. Puis on travaille ça en collaboration avec le fédéral. Puis il a eu l'habitude de respecter nos demandes là, ces dernières années. Donc, on est confiant qu'on va rester à ce niveau-là pour l'immigration permanente. Et comme je vous dis, on va changer les règles également. Donc, ça va faire en sorte de changer la nature du type d'immigration permanente qu'on va avoir dès l'année 2023. Ça va commencer à être mis en œuvre, pas pour tous les programmes, mais une bonne partie des programmes, ça va être mis en œuvre dès l'année 2023. Et on veut tendre vers une immigration entièrement francophone pour ce qui est de l'immigration économique.
Et là, vous allez corriger les erreurs structurelles et fondamentales des dernières années.
Ben, on va réorienter les choses pour que ça serve, en fait, la cause de la langue française, parce que c'est important qu'on s'y attarde.
Parce que, puis là, comment je dirais ça? Je ne vous vise pas personnellement, mais moi, la cassette, on veut des francophones, on veut ouvrir le. Puis quand je m'aperçois que dans les faits, on fait à peu près tout pour retarder l'arrivée d'immigrants francophones, puis il y en a qui viennent pareil, là. Il y a toutes sortes de raisons qui amènent quelqu'un à changer de pays puis à s'établir ici. Puis là, on parle pas de ceux qui sont anglophones qui vont ailleurs. Il y a quelque chose. Puis on a eu Bouchard Taylor, puis ça. Puis les libéraux n'ont pas donné suite, puis vous, ça a pris du temps.
Avant même là qu'on réforme les programmes, on va avoir Francisation Québec qui va démarrer le 1er juin prochain. Ça, là, c'est des mesures de francisation gratuites, OK, pour toute personne qui va être domiciliée au Québec et qui respecte là, bon, les quelques critères qu'on s'est mis. Mais c'est vraiment ouvert et ça va faire en sorte de donner accès à des cours de francisation à temps plein, à temps partiel, en virtuel, en présentiel, sur les lieux d'entreprise. Ça, c'est essentiel. Puis en amont, avant même que les gens on immigre au Québec. On y met le paquet et ça va faire en sorte de rendre accessible à tous l'apprentissage du français. Donc, on est en action et on va continuer à l'être et surveiller nos mesures renouvelées dans quelques semaines.
Madame Fréchette, merci d'être venue ce matin.
Merci à vous.
Christine Fréchette est la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Des chiffres publiés ce matin dans le Journal de Montréal qui sont assez alarmants dans un sens. Fin du secondaire, à peine 48% des élèves ont réussi les tests d'orthographe. Alors quand vous regardez le taux de réussite à l'épreuve de français du cinquième secondaire, donc l'épreuve de français écrit, pour ce qui est de la situation de communication, 97%, la cohérence du texte, 98%, utilisation du vocabulaire approprié, 89%, la construction des phrases et la ponctuation, 76%, arrive l'orthographe, 48%. Avec nous, Justin Tachereau, qui est enseignant de français, secondaire 2, et vice-président de l'Association québécoise des professeurs de français. Monsieur Tachereau, bonjour.
Bonjour, M. Arcand. Merci de me recevoir.
Ben, merci d'être là. D'abord, êtes-vous surpris ou pas d'un tel niveau, ça dépend comment on le prend, là, de réussite ou d'échec?
En fait, non, parce que c'est une donnée qui est similaire à plusieurs de ces données qui ont été publiées par les années passées. Donc, comme vous vous en doutez, c'est un résultat qui revient dans notre boîte courriel à la QPF chaque année et chaque début d'année scolaire également. Donc, c'est sûr qu'on souhaite ardemment que tout le monde réussisse ce fameux cinquième critère. Cependant, je suis très satisfait de savoir que les autres critères sont généralement bien réussis. Ça, c'est une bonne nouvelle.
OK, mais ça veut dire qu'ils sont capables d'écrire un texte qui, disons, tient la route, qui sont capables d'avoir de la cohérence, sont capables d'avoir du vocabulaire et tout ça, mais ils sont pas capables d'écrire correctement.
Là, je dirais, pas capable d'écrire correctement, c'est que, en fait, la donnée qui est manquante là-dedans, M. Arcand, c'est la classification de ces erreurs-là.
Okay.
Le cinquième critère, orthographe et grammaire, comprend une liste, je ne dirais pas interminable, mais de plusieurs pages dans le guide de correction de l'épreuve ministérielle. On n'a pas accès aux erreurs les plus fréquentes des élèves pour chaque année. Si on avait cette donnée-là, je crois que ça ferait longtemps que le milieu enseignant serait mobilisé pour les travailler en amont avec les élèves. Parce que cet examen-là dépend beaucoup de ce qui a été fait en amont pour enseigner l'écriture, pas seulement pendant la cinquième secondaire, mais aussi pendant tout le parcours de l'élève depuis le primaire.
Mais comme prof, vous êtes de secondaire 2, là, qu'est-ce que vous constatez comme faute d'orthographe, disons, récurrente? Sur quoi les élèves accrochent?
Je dirais, là, évidemment, en deuxième secondaire, on n'a pas les mêmes critères de correction.
Non.
C'est-à-dire que plusieurs erreurs, on ne peut les pénaliser car elles n'ont pas été enseignées. Ce que je remarque, et je crois que ça va dans le même sens que bien des recherches en didactique de la grammaire, c'est que les élèves ont beaucoup de difficultés à reconnaître, notamment les classes de mots. Ils ont beaucoup de difficultés à différencier, disons, l'adverbe de l'adjectif, la préposition d'une autre classe de mots. Et à partir de là, les règles d'accord qui s'appliquent selon les classes de mots et selon les phrases qui ont été produites. Ça, pour moi, c'est l'enjeu principal en deuxième secondaire en ce moment, qui se répète depuis les trois dernières années, mais aussi tout ce qui est de la réflexion métacognitive, c'est-à-dire que l'élève, s'il fait une correction et qu'il tente de justifier la correction, il n'utilise pas les bons termes, il n'utilise pas le bon raisonnement, donc il y a ça aussi qui est manquant et c'est pourtant c'est un incontournable pour bien se réviser et se corriger.
Je pose une question et parce que j'entends toutes sortes de choses là, est-ce que on corrige ou pas les fautes de français à l'extérieur des cours de français, en histoire, en géographie? Est-ce que dans les travaux des étudiants, on en tient compte?
Au secondaire, il me semble en 2008 ou en 2009, une recherche menée par Suzanne Chartrand avait montré que les erreurs de français étaient peu ou pas corrigées à travers les autres cours. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, il y a souvent dans les écoles une espèce de politique interne pour laquelle un enseignant d'une autre matière ne peut pas pénaliser l'élève pour ses erreurs de français. Il peut les mettre en évidence, les surligner, les indiquer à l'élève, mais pour ce qui est de la pénalisation pure et dure, on la réserve pour les enseignants français parce que c'est dans le cours de français que les élèves apprennent ces règles-là pour produire des textes. Cependant, il faudrait que les enseignants des autres matières, que ça en devienne une politique, qu'ils puissent être capables de cibler les erreurs des élèves dans leur production. Et de toute façon, M. Arcand, c'est déjà une compétence professionnelle inscrite dans le référentiel. On devrait déjà faire ça de facto à travers toutes les matières.
Ben, il me semble que si on veut pousser l'apprentissage de l'orthographe, s'assurer que... J'allais vous dire, quand dans la vie de tous les jours, on écrit, on communique, peu importe la forme, je trouve ça un peu particulier qu'on segmente au cours de français. Si je suis pas capable d'écrire un travail correctement, que ce soit en histoire ou en géographie, je vous dis pas que c'est le même niveau nécessairement de pénalité, mais il me semble que ça devrait être ça devrait être noté, puis ça devrait faire l'objet d'une préoccupation.
Absolument, parce que la langue française, c'est l'affaire de tout le monde. Et surtout le statut particulier de l'enseignant français qu'on rend imputable pour la qualité orthographique des élèves à travers les autres cours. On met beaucoup de pression, je pense, sur l'enseignant français comme figure, pas seulement comme enseignant professionnel de l'éducation, mais presque comme une figure sociale, presque hissée au-dessus de toute la mêlée, alors que tous les enseignants ont un rôle à jouer. Et effectivement, je pense que c'est dans la préoccupation des enseignants en général. Mais qu'est-ce qui est mis en place dans les écoles? Là, je pense que c'est un peu tout un chacun fait ce qu'il peut. C'est sûr que j'ai à cœur le fait que mes autres collègues comme moi souvent sont surchargés dans leurs tâches, n'ont pas nécessairement le temps pour passer justement cet aspect de correction plus orthographique, grammaticale. Donc, c'est possible qu'ils soient en manque de temps et de ressources pour le faire. Et évidemment, on ne peut pas, je dirais par abstraction, du fait que certains enseignants d'autres disciplines n'ont peut-être pas la même maîtrise de l'orthographe et de la grammaire que d'autres enseignants. Puis ça, je veux dire, c'est déjà quelque chose qui a été nommé à de nombreuses reprises au courant des années dans les chroniques des médias, dans les études en éducation. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faudrait absolument resserrer la vis et faire en sorte que tout ce qui est écrit par les élèves, et ils doivent écrire beaucoup, ils devraient écrire au moins une fois par jour, à peu près dans tous les cours. Donc, il faut faire un travail moins en silo, plus de collaboration pour aller cibler qu'est-ce que l'élève fait à travers toutes ses productions écrites.
Merci, M. Tachereau. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir. Justin Tachereau est prof de français, deuxième secondaire et vice-président de l'Association québécoise des professeurs de français.
C'est 23.